15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au TOC, ces troubles compulsifs à cause desquels certains patients se lavent parfois les mains 35 fois par jour, font le ménage pendant des heures ou même vérifient tout 100 fois. Eh bien, avec notre invité, le psychiatre Antoine Pellissolo, nous ferons le point sur l'origine de ces TOC et ce qui commence parfois dès l'enfance et surtout sur leur traitement. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du dépistage du cancer du côlon 2.0. Vous verrez que l'intelligence artificielle nous sera peut-être bientôt très utile. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler d'une infection sexuelle transmissible qui est en pleine explosion en France et même dans toute l'Europe, la syphilis. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Il sera question de simulation pendant les rapports sexuels et vous verrez qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent simuler.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Martine.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai 68 ans, je suis nouvellement mamie d'une petite fille de 2 mois qui souffre de coliques du nourrisson. Que peut-on y faire? Enfin, est-ce qu'on peut les atténuer? Merci d'avance pour votre réponse.
Alors Jimmy, on va essayer de répondre à Martine. Les coliques du nourrisson, on en a tous entendu parler, mais comment on les reconnaît? En tout cas, bon, c'est un bébé qui hurle, hein, globalement.
Oui, c'est un bébé qui pleure plus de 3 heures par jour, plus de 3 heures par semaine, pendant plus d'une semaine. Ça survient durant les premiers mois de vie, ça se calme globalement vers 3-4 mois. Et c'est des pleurs qui surviennent souvent en fin de journée et au moment de la nuit, raison pour laquelle on suspecte un mécanisme hormonal. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. On sait que certains bébés vont en faire plus que d'autres. Et il y a une particularité, c'est que les bébés dont les parents sont plutôt stressés et à un haut niveau socio-économique ont plus de coliques que les autres.
Ah oui.
Donc le stress des parents aura un impact sur les coliques du bébé.
Il faut dire qu'au début, avec un bébé, on est un petit peu stressé en même temps. Hein, mais des parents plus stressés ont plus de coliques. Alors on va essayer de détendre. Mais est-ce qu'il y a plus de symptômes finalement que les pleurs? Est-ce qu'on peut reconnaître les coliques à autre chose finalement?
Alors, un bébé qui a des coliques, c'est un bébé qui va bien, qui pleure énormément et qui a un cycle assez stéréotypé avec des accès donc, de pleurs, un bébé qui va avoir les poings fermés, les jambes pliées sur son bassin et qui va être soulagé après l'émission d'un petit gaz, il va se mettre un pété, mais c'est un bébé donc c'est mignon, il a le droit. Et il aura un ventre plutôt dur qu'on aura du mal à masser à ce moment-là et on a l'impression qu'effectivement le problème est digestif, sauf qu'on n'a jamais la preuve que les coliques du nourrisson sont réellement des douleurs abdominales digestives. On s'est même amusé, je ne sais pas si c'est le terme, à mettre sous morphine des bébés qui avaient des coliques. Et ben résultat, ils ont toujours aussi mal. Et donc, on n'est même pas sûr que les coliques soient l'expression d'une douleur. C'est peut-être l'expression d'une angoisse ou d'autres choses pour lesquelles on n'a pas encore de réponse.
D'accord. Et alors, maintenant qu'on sait à peu près les reconnaître, on nous a donné quelques signes. Est-ce qu'on vous dit que c'est un bébé en bonne santé, donc ce n'est pas grave quand même?
Non, ce n'est pas grave. C'est un bébé qui va bien, qui prend du poids, qui tète correctement, qui prend le lait correctement, qui n'est pas constipé, qui donc a des couches où on retrouve des selles, qui a une bonne courbe de croissance. Donc, c'est un bébé qui va bien, mais dont le stress peut être ressenti par les parents.
D'accord. Et avant de parler de comment les soulager, vous disiez... On ne sait pas d'où ça vient, mais enfin, il y a quelques pistes quand même, j'imagine,
oui,
sur l'origine.
Oui, on suspecte une immaturité du tube digestif, un rôle encore une fois du microbiote. Les bébés, encore une fois, nés par césarienne, ont plus de coliques que les autres parce qu'ils ne sont pas passés par la voie génitale. Donc certaines pistes évoquent ça. Et puis, on parle parfois d'une intolérance alimentaire, un lait, donc on n'est pas trop sûr. On pense que ça vient de là.
Alors comment on les soulage quand même? C'est ça le plus important finalement.
Alors il faut les porter. Les bébés qui ont des coliques doivent être portés. Et vous savez, on parle souvent des mamans africaines qui portent les bébés dans le dos. Et ben, ces enfants-là ont moins de coliques. La calmosine donc, qu'on retrouve sous forme de sirop avec du fenouil permet de soulager les douleurs abdominales. Masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre avec un massage énergique permet de les soulager. Et puis souvent, il faut patienter. Il faut attendre que ça passe.
Patience et amour et câlin, voilà les conseils du docteur Jimmy Mohamed aujourd'hui. Alors on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Florent, 37 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'avais une question. J'ai un appartement qui est assez humide et j'ai le chauffage quand même dans mon appartement, mais on m'a dit qu'il faudrait peut-être que je mette un humidificateur dans ma pièce. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon à mettre ou pas? Merci beaucoup pour votre réponse. Au revoir.
Alors, l'hiver est là, eh bien, avec son lot, comme d'habitude, de virus, de rhinos, de laryngite, de bronchite. Et puis, évidemment, on met le chauffage à fond. Donc, parfois, l'air est très sec. Et du coup, on voit plein de publicités, d'ailleurs, pour ces humidificateurs qui sont vendus partout. Est-ce que ça sert à quelque chose, Jimmy?
Non, ça sert à rien.
Ah bon, mais au moins, rien. C'est clair, on a répondu
non,
à la question.
Voilà, c'est
merci.
Réglé, on passe
merci
à autre chose.
Merci, Florence, ça ne sert à rien.
À bientôt.
Rien.
Non, mais globalement, il fait froid dehors, donc on chauffe à l'intérieur. Et c'est une très mauvaise chose de chauffer parce qu'on se réveille le matin avec les voies respiratoires asséchées. Vous savez, les crottes de nez qu'on a.
Toutes sèches.
Et pas belle, et que certains déposent sur l'oreiller au lieu de les jeter dans un mouchoir, et ben on les retrouve là. Donc à ce moment-là, c'est lié au chauffage. Et si vous mettez un humidificateur, on va en parler, mais ça sert à rien.
Bon, ok, alors moi je mets un petit bol d'eau sur le radiateur dans la chambre de mes enfants pour que l'air soit plus humide, mais ça sert à rien non plus.
Et c'est super, mais ça sert à rien parce que si vous achetez un petit hygromètre, vous allez vous rendre compte que vous avez un taux d'humidité qui va absolument pas changer si vous mettez ce bol d'eau chaude qui va avoir effet pendant quelques minutes. D'autant plus que parfois on met des huiles essentielles qui peuvent être dangereuses, donc attention. Et puis derrière, on fait aussi sécher le linge, c'est aussi une méthode que certains utilisent. C'est très mauvais, ça favorise le développement de moisissures. L'humidité n'est absolument pas homogène, donc laissez tomber ça. Le seul conseil qu'on peut donner, c'est ne surchauffez pas votre pièce entre 18 et 20 degrés et aérez la pièce, ça suffira largement.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Florent qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 3921, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas. Europe 1. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'un nouveau type de dépistage du cancer du côlon qui fait appel à l'intelligence artificielle. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le psychiatre Antoine Pellissolo, avec qui on va tout vous expliquer aujourd'hui sur les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le psychiatre Antoine Pellissolo, avec qui on va parler des TOC. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'un dépistage du cancer du côlon d'un nouveau genre. Ça a l'air incroyable, hein, ça. On va pouvoir s'aider de l'intelligence artificielle pour diagnostiquer des cancers du côlon.
Exactement, c'est deux équipes qui ont développé ça, celle du professeur Benamouzi, qui est chef de service à l'hôpital Avicenne, et celle du professeur Chaussat, qui est aussi chef de service, mais à Cochin, qui ont développé ça entre août et septembre 2019. Alors, ils ont permis, grâce à un dispositif, de détecter de façon plus précoce les polypes et les cancers colorectaux basés sur l'intelligence artificielle.
Bon, alors expliquez-nous comment tout ça marche, finalement.
Alors, ce dispositif se base sur l'intelligence artificielle pour détecter et signaler automatiquement, en temps réel, toute anomalie évocatrice de polypes colorectaux. Lors d'une coloscopie, ce dispositif analyse systématiquement toutes les images qu'il reçoit à la recherche d'un polype. Et lorsqu'il détecte une anomalie, il informe l'équipe soignante en projetant en temps réel sur l'image de la coloscopie un petit cadran vert autour de la zone et en émettant un bip sonore. Concrètement, c'est un petit boîtier associé au matériel habituellement utilisé lors d'une coloscopie.
D'accord, et c'est vraiment, vraiment efficace ?
Oui, ce nouveau dispositif permet de sécuriser l'examen du gastro-entérologue en détectant toute anomalie identifiée, notamment des polypes, qui pourraient être difficiles à détecter lors d'une coloscopie. Mmh. Et ces polypes sont les précurseurs du cancer colorectal. Et leur ablation permet de diminuer donc l'incidence du cancer colorectal chez les patients qui bénéficient d'une coloscopie. Et en plus de ça, ce dispositif est très efficace. Il a une sensibilité à 99,7%.
Oui, quasi 100%.
Il détecte tous les polypes, et ce qui permet de limiter le nombre de cancers, parce que le gastro-entérologue va les traiter précocement.
Bon, c'est formidable tout ça. L'intelligence artificielle, en gros, va tout faire à votre place. Hein. Les médecins, on n'a plus besoin de vous, ça y est.
Eh ben non, on aura toujours besoin de moi, en tout cas sur Europe 1 pendant quelques temps, au moins cette année, on verra pour la suite. Mais on a besoin malgré tout de la coloscopie. Là, c'est qu'un précurseur. Et donc, on aura toujours besoin du médecin. C'est un accompagnement, c'est une aide à le diagnostic, mais encore une fois, on ne remplacera jamais les médecins.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour consacré au TOC. C'est le professeur Antoine Pellissolo. Il est chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour, professeur Pellissolo.
Bonjour.
Alors, d'abord, professeur, pour bien comprendre de quoi on parle, c'est quoi un TOC? C'est quoi la différence entre un TOC, finalement, et peut-être une manie ou un tic? Un TOC, c'est quoi?
Alors effectivement, c'est dans la continuité des manies et un peu des superstitions aussi. Ce sont des comportements ou des façons de penser qui s'imposent à vous quelque chose qui est vraiment qui peut prendre le contrôle en fait de vos actions parce que vous sentez qu'il y a notamment un risque important à ne pas le faire. Donc c'est moi j'appelle ça un peu la maladie de l'hyper-contrôle, le besoin de tout contrôler en fait. Mmh. Alors avec toujours l'idée que si on ne le fait pas, on peut s'exposer à un risque qui est souvent vécu comme grave, risquer de provoquer un accident sévère, une maladie, la mort derrière, enfin des sujets comme ça.
Jimmy ?
Mais par exemple, un des tics que j'ai, c'est de vérifier toujours que j'ai fermé l'eau avant de partir. Mais ça m'empêche pas de dire, c'est pas un toc, c'est un tic, parce que finalement, alors, je le fais qu'une fois.
Déjà, on va différencier les tocs et les tics. Ça ressemble, mais ça n'a rien à voir. Un toc, c'est un trouble obsessionnel compulsif. C'est une abréviation qui veut dire qu'on a soit des obsessions, soit des compulsions. Les tics, en général, c'est plutôt en neurologie quand on fait des gestes répétitifs, donc c'est autre chose. Alors, entre une manie simple, et qui n'est même pas une manie dans votre cas. Dans votre cas, vous avez juste un comportement un peu de sécurité, parce que vous vous dites que c'est embêtant d'oublier de fermer sa porte.
Un bon chef de famille qui vérifie bien que tout est en ordre avant de partir de chez lui.
Tout va bien, je suis rassuré.
Et donc, c'est une des procédures de sécurité que nous avons, comme le fait de se laver les mains avant de manger, avant d'être passé aux toilettes, etc.
C'est normal,
c'est des comportements, on va dire, de sécurité, d'hygiène normaux. Les personnes qui souffrent de TOC vont le faire, évidemment, mais vont le refaire. Donc, la grande différence, c'est que relaver quelque chose que vous avez déjà lavé, on comprend que c'est excessif. Surtout quand ça fait 2 fois, 10 fois, 20 fois que vous le faites. Mmh. Revérifier quelque chose que vous avez déjà vérifié, normalement quand vous revenez en arrière, vous allez être plus attentif et vous le savez et donc vous n'avez pas besoin de revenir une 3e fois. Les personnes qui ont un TOC, en fait, ont probablement quelque chose qui se rallume juste après, disant « est-ce que je suis vraiment sûr ? Est-ce qu'il n'y a pas un doute ?» Et en fait, c'est aussi la maladie du doute, les TOC.
Et ça peut s'appliquer donc à des pensées comme à des actions, hein, c'est-à-dire, c'est quoi les TOC les plus fréquents, finalement, que vous voyez en consultation ?
Alors, il y a 3 grandes catégories, ce qu'on appelle les obsessions de lavage, où là, on a surtout la crainte de se contaminer, si on ne fait pas bien les choses, c'est-à-dire si on touche des choses pas propres, si on ne se lave pas bien les mains, la toilette, et aussi le ménage, hein, les objets autour de soi. Il y a une obsession d'erreur, qui est souvent lié à des risques, je vous disais tout à l'heure, de malheurs qui peuvent arriver. Donc si je ne fais pas bien les choses, si je ne regarde pas en traversant la rue, si je ne regarde pas mes rétroviseurs quand je conduis, ça c'est quelque chose qui revient très souvent maintenant, des gens qui ont peur d'écraser quelqu'un dans la rue, en voiture, qui passent leur temps à vérifier à l'arrière et reviennent parfois en arrière. Donc tout ce qui va, en gros, vous exposer à un risque d'erreur sans vous en rendre compte. Et puis 3e chose, c'est un peu plus compliqué à comprendre, c'est tout ce qui est lié vraiment aux pensées, le fait d'avoir des mauvaises pensées. Il y a des gens qui ont comme ça une hantise d'avoir une pensée en général mauvaise sur les autres, de déclencher un malheur qui pourrait les toucher. Et dans ce cas-là, ils sont en permanence en train de surveiller ce à quoi ils pensent, ce qui est très compliqué.
Professeur Felissolo, merci. On va poursuivre cet entretien. Mais juste avant, je vous laisse avec Jean-Louis Aubert. Vous êtes sur Europe 1 et vous écoutez le titre, bien sûr.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est le professeur Antoine Pellissolo. Il est chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Alors professeur, aujourd'hui on parle des TOC. Vous nous avez expliqué qu'il existait plusieurs sortes de TOC. Vous en avez oublié un, je crois. Enfin, pas oublié, on n'a pas eu le temps d'en parler, surtout. Celui qui parle, enfin, en fait, c'est une sorte de phobie d'impulsion. Expliquez-nous ce que c'est ce TOC.
Oui, alors il y a beaucoup d'autres formes, hein, mais les principales, c'est celle-ci. Puis, donc, les phobies d'impulsion, c'est la peur un peu obsédante, enfin, vraiment obsédante et permanente d'avoir une impulsion, justement, une pulsion qui serait dangereuse, qui serait vraiment très dangereuse.
Par exemple,
se faire du mal avec un couteau. Donc, c'est des gens qui, finalement, vont fuir la proximité avec les couteaux, se jeter par la fenêtre. Donc, c'est des gens qui vont éviter de monter à un certain étage.
Ils ont peur d'avoir envie de se jeter par la fenêtre.
Alors, c'est pas vraiment envie, parce qu'ils savent bien qu'ils, ne souhaitent pas le faire, mais qu'il y a un coup de folie, quelque chose, une impulsion qui les prenne. Et ça peut être aussi envers les autres. Donc, ils ont peur d'agresser les autres, de les insulter, de les agresser physiquement, voire sexuellement. C'est une des thématiques les plus fortes, là, en ce moment. Donc, ça peut être obsédant.
Ce sont des gens qui ont, par exemple, peur de devenir pédophile, hein, c'est
alors,
ça?
De devenir, ou en tout cas, d'avoir un acte.
Alors qu'ils
comme
le
ça,
sont pas.
Soudain, alors que, évidemment, ce ne sont pas du tout dans leur désir réel. Et donc, ça peut être auto-agressif ou hétéro-agressif.
D'accord, donc ça, c'est une autre sorte de TOC. Je reviens sur
On peut dire juste par précaution, parce que comme ça, tout le monde le saura tout de suite, ce sont des gens qui ne passent jamais à l'acte. Hein, au moins, là-dessus, on peut être sûr, on peut leur expliquer, il faut leur expliquer que même, c'est pas parce qu'ils ont peur de faire quelque chose qu'ils vont le faire. Absolument pas.
Et cette pulsion, effectivement, c'est une maladie, c'est un TOC. Les TOC, justement, est-ce que c'est très fréquent dans la population? Ça touche combien de personnes
en
France?
C'est fréquent. On compte entre 1 et 2 %. des adultes, mais également des enfants, puisque ça peut commencer effectivement assez tôt dans la vie.
Il y a plus les hommes, les femmes, non ? Il n'y a pas de sexe ratio ?
Non, autant d'hommes que de femmes, contrairement aux autres troubles plutôt émotionnels, où il y a quand même en général plus de femmes que d'hommes concernés. Pour les TOC, c'est à peu près du même niveau.
Jimmy ?
Est-ce qu'il n'y aurait pas une dimension un peu magique avec les TOC ? La personne qui, par exemple, se lave les mains 12 fois dans la journée, est-ce qu'au bout de la 12e fois, elle se dit, bah, de toute façon, je sais que ce n'est pas rationnel ce que je fais, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire ?
Alors le point de départ c'est vraiment ça, c'est le côté c'est plus fort que moi, je sais que je ne dois pas le faire et donc il y a une lutte d'ailleurs, on appelle ça des compulsions parce qu'en fait on lutte contre une forme de pulsion qui s'impose à vous, au bout de 3 fois je sais que c'est trop mais je recommence une 4e et 5e. Alors le côté magique, il y a 2 choses, il y a souvent des chiffres qui ont une vraie valeur rassurante pour certaines personnes, donc effectivement ils vont le faire 12 fois ou alors ils vont éviter de le faire 13 fois par exemple, il y a vraiment cette notion de superstition, il y a toujours un chiffre qui est important pour la personne, c'est 3, 7, enfin ça peut être vraiment n'importe quoi, et ça peut aller très loin. Moi, j'ai vu des gens qui ne sortaient pas le 13 du mois, tous les jours, enfin, tous les 13
mois. Il vaut mieux être obsédé par le chiffre 12 que par le chiffre 112, parce que si on doit se laver les mains 112 fois, ça fait beaucoup quand même.
Voilà, alors souvent, mais oui, mais sauf que c'est souvent 3, mais, et 3 fois 3, c'est mieux, parce que c'est plus sûr, et 3 fois 3 fois 3, enfin, ça peut être sans limite. Hein.
Très
handicapant. Et puis, dernier point, en rapport avec la pensée magique, hein, comme on disait, c'est vraiment comme les superstitions, mais avec un impact beaucoup plus fort. C'est-à-dire, je ne peux pas supporter telle pensée ou telle façon d'envisager un événement, et je sais qu'il y a pas, c'est pas rationnel. Si je pense que, par exemple, j'en veux à telle personne, elle va se faire écraser dans la rue, c'est pas mon souhait, mais rien que le fait d'y avoir pensé, ça peut lui arriver, donc je vais tout faire pour m'interdire cette pensée-là, et s'interdire de penser, c'est impossible, donc on est obsédé par cette idée qui est très douloureuse.
Que racontent les patients qui subissent ces tocs, une fois que la personne, par exemple, donc on va parler du lavage des mains, parce que c'est vrai que ça revient souvent ce toc-là, la personne qui s'est lavée, donc on est à la 12e fois où elle se lave, elle se rend compte, c'est-à-dire qu'au moment où elle se lave les mains une fois, deux fois, trois fois à chaque fois, elle est consciente du fait qu'elle est en train de faire un truc qui n'a pas de sens, entre guillemets.
Oui, alors, en général, oui. Assez peu au début, notamment quand c'est les enfants, hein, parce que les enfants, ils se sentent obligés de le faire, ils ne vont pas avoir ce raisonnement de pourquoi je le fais, c'est excessif, etc. Il y a vraiment une force à l'intérieur. Et les adultes, au bout d'un certain temps quand même, se disent là, c'est trop. D'ailleurs, souvent, leur entourage leur fait comprendre que ça semble vraiment trop. Ils trouvent ça absurde, ils trouvent ça vraiment inutile, mais c'est ça la maladie. C'est le fait que même si on décide de pas le faire, on se sent obligé de le faire. Comme si vous dites, il faut que j'aille vérifier ma voiture parce qu'elle est restée ouverte. Si vraiment vous y tenez beaucoup, vous allez y aller finalement. Et là, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de motif réel, mais ça s'impose. Et c'est très angoissant, en fait. Hein. L'élément supplémentaire, c'est que tout ça, c'est très angoissant au moment où on le fait.
Jimmy ?
Et vous l'évoquez un petit peu, mais ça doit créer des conflits, ça va être compliqué au sein d'une famille, d'un couple avec des enfants ou pas. Vous les voyez eux aussi en consultation ?
Oui, il est toujours vraiment important de les recevoir, non seulement pour avoir un peu leur observation, comment c'est arrivé, quels sont les éléments comme ça, un peu de contexte, et puis surtout aussi pour leur expliquer ce que c'est qu'un TOC, parce que très souvent, il y a toujours l'idée que c'est
une question un effort, arrête.
Voilà, il faut arrêter, c'est idiot, ça sert à rien.
Devant gueuler la personne
ça
qui souffre de TOC.
Ça peut être très péjoratif, hein, en disant que... Et en plus, souvent, ça impacte vraiment tout le monde. Hein, on dépense plus d'argent en eau, par exemple, parce que les douches durent très longtemps, on dépense l'électricité, il y a tout un tas de contraintes pour la famille, on ne doit pas toucher ça, il y a des protocoles à respecter. Donc, ça crée effectivement des troubles dans la famille. Donc, s'il n'y a pas une bonne alliance et une bonne compréhension de tout le monde, ça va en plus générer des conflits et des problèmes de famille ou de couple.
Est-ce qu'on sait pourquoi un TOC, finalement, tout d'un coup, il survient ? Est-ce que c'est à la suite d'un traumatisme ? Est-ce qu'on connaît l'origine ?
Alors, on ne connaît pas du tout une cause vraiment qui serait unique et valable pour tout le monde. Il y a sûrement un terrain favorable et on sait qu'il y a des facteurs, on peut dire physiologiques ou même cérébraux qui sont sûrement en cause. On ne sait pas exactement lesquels. On sait un peu où ça se passe dans le cerveau, mais pas exactement pourquoi. Et puis ensuite, comme pour tous les troubles psychiques, il y a, c'est vrai, les effets du stress qui vont être ajoutés. Il y a souvent des événements qui déclenchent l'apparition du TOC sans pouvoir dire que c'est vraiment la cause, mais ça peut être le déclencheur. Par exemple, le plus fréquent chez les femmes, c'est les grossesses. Il y a souvent des troubles qui apparaissent après la maternité. Mais parfois, il n'y a pas de facteur non plus. Donc, on n'a pas, je dirais, une explication simple, en tout cas, qui serait valable pour tout le monde.
Vous dites quand même que c'est des personnes qui ont un terrain un peu plus anxieux, hein, ça c'est sûr.
Alors le terrain anxieux sûrement, c'est pas la même anxiété que par exemple les phobies ou les attaques de panique. C'est probablement plutôt le caractère un petit peu, on dit maniaque, obsessionnel, qui peut être en partie en cause, mais même pas tout le monde. Hein. Il y a des gens qui ont une personnalité, c'est-à-dire comme vous et moi, c'est-à-dire à peu près de tout type, voire normal.
Donc j'y étais moyenne.
Ouais. Oui, et qui vont voir apparaître un trouble obsessionnel. Vraiment, c'est sûrement un mécanisme à part entière.
Alors on va poursuivre cette discussion dans un instant, professeur Pellissolo, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans quelques minutes, on va passer évidemment au traitement de ces TOC, car oui, ça se soigne et pas si mal d'ailleurs. On arrive à guérir au moins la moitié des personnes atteintes, notamment grâce à des psychothérapies spécifiques qui durent plusieurs mois. On vous expliquera comment cela fonctionne. Et puis, il y a des médicaments aussi qui peuvent être efficaces. On y revient très vite. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Antoine Pellissolo. Il est chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Alors, il y a quelques minutes, on nous a expliqué que les patients qui souffrent de TOC, en général, ils ont un terrain plus anxieux, mais bon, c'est pas systématique non plus. Mais est-ce que du coup, ils sont plus à risque, par exemple, de dépression, ces patients-là ?
Oui, en général, on dit qu'à peu près la moitié des personnes souffrant de TOC peuvent développer une dépression, soit parce qu'il y a une forme vraiment d'usure. Ça peut être une maladie qui peut être très handicapante. On l'a pas dit, mais ça peut impacter, par exemple, plusieurs heures de la journée, hein, tous les jours, soit avec les comportements qui s'imposent, soit parce que ça prend la tête, entre guillemets, oui. ça parasite en permanence. Et donc, il y a une forme de lutte pendant parfois des années, et puis on finit par s'épuiser.
Comme
et donc
un burn-out de soi-même, quoi.
Voilà. C'est ça. Et puis, simplement aussi, il y a probablement des facteurs de risque communs entre la plupart des troubles anxieux, les troubles obsessionnels et la dépression.
Jimmy.
Et vous l'avez dit, c'est parfois usant, notamment lorsque ça dure plusieurs heures par jour, mais c'est des personnes qui arrivent à être quand même insérées dans la société, par exemple à continuer de travailler.
Oui, heureusement, la plupart composent avec cela. C'est ça qui est difficile, parce que ça demande un effort, c'est surtout très fatigant, et puis il y a le stress qui va avec. Mais heureusement, on arrive à travailler, à avoir une vie normale, mais au prix d'un gros effort. On voit, nous, des patients, ceux qui arrivent à l'hôpital en général, qui sont handicapés au point de ne plus pouvoir faire leurs activités habituelles, parce que ça va durer 5 heures, 6 heures par jour, voire quasiment en permanence. Et il y a des cas où c'est incompatible avec une vie professionnelle.
Mais vous en avez quand même qui travaillent. Comment ils s'arrangent, par exemple?
La majorité ont une vie normale.
Vous avez des cas, un cas qui vous revient en tête, et donc comment on s'arrange pour se laver les mains 25 fois? Enfin, remarquez, il y a des lavabos au travail, mais comment ils font?
Oui, effectivement. Alors, il y a beaucoup de stratégies qui sont d'ailleurs assez néfastes, qui aggravent ou qui entretiennent le trouble, c'est d'éviter le maximum de choses. Donc, par exemple, les personnes qui ont peur de se contaminer, par exemple, les mains, ce qu'on appelle un peu la phobie du contact, on appelait ça comme ça avant, ou même la folie du toucher ou du contact, vont finir par ne plus rien toucher. Donc, ils vont avoir leur ordinateur qui sera interdit à toutes les autres personnes, ou ils vont avoir des gants pour toucher les choses, les poignées de porte, etc. Ils ne vont pas serrer la main, enfin, vous voyez le genre de conséquences que ça peut avoir. Ou alors, ils vont passer leur temps. Ce qu'on voit maintenant tout le temps, c'est les lingettes en permanence, les petits liquides hydroalcoolique pour se laver les mains. Et donc ça va, ouais, ils vont en gros essayer malgré tout de vivre une vie normale à côté. Et puis après, ils vont passer du temps, par exemple, à faire, toujours la question de la contamination, à faire le ménage chez eux. Ils vont passer 2 heures ou 3 heures le matin avant de partir pour pouvoir aller travailler ensuite, l'esprit un peu tranquille. Ou alors ça va être, je passe 2 heures à fermer ma porte. On a ça aussi. Ils vont fermer à clé, remonter, revenir, revérifier, etc.
Jimmy.
Et on arrive à soigner cette pathologie. Est-ce qu'on peut tous les guérir, en fait ?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut se traiter parce qu'on peut vraiment progresser beaucoup, on peut améliorer cette pathologie, rarement la faire disparaître à 100%. Ça, c'est vrai que souvent, l'amélioration, elle peut être très forte, mais pas complète. On dirait qu'il y a à peu près, effectivement, la moitié des personnes souffrant de TOC qu'on peut vraiment améliorer. Alors, ça va être un petit peu long, ça ne sera peut-être pas définitif, il faudra parfois y revenir un petit peu, mais en tout cas, ça peut changer la vie radicalement.
Ils ont souvent de la culpabilité un petit peu, ces patients, de la honte, d'être sous le poids de toutes ces obsessions. D'abord, vous essayez, je crois, en consultation, quand vous en recevez un qui arrive pour la première fois, de les déculpabiliser. Hein. C'est ça, souvent, le début du traitement.
Oui, parce que c'est vécu dans la honte, parce qu'on se trouve vraiment complètement anormal, parce qu'évidemment, on voit bien que les autres ne font pas la même chose, on n'ose pas en parler. Donc, la première chose à se dire, c'est que c'est une vraie maladie, et que c'est pas un problème de mauvaise volonté ou de faiblesse, que c'est une vraie maladie, que malheureusement on n'est pas les seuls, enfin ils ne sont pas les seuls à en souffrir. Donc c'est déjà une partie un petit peu d'information, et puis juste de vraiment d'expliquer les mécanismes. Ça vient du fait qu'on a des doutes sur les choses, on a besoin de contrôler, et que c'est en fait le dérèglement d'un processus, on le disait un peu tout à l'heure, qui est normal au départ. Donc c'est pas mal aussi pour expliquer que c'est pas...
La base est normale.
Oui, qu'on n'est pas, ce ne sont pas des extraterrestres qui ont un truc complètement bizarre, c'est juste l'amplification, le plus souvent, vraiment, c'est l'amplification de réactions qui sont même plutôt utiles, vraiment, par exemple, pour la survie. De se laver, de vérifier l'absence d'erreur, de faire attention aux autres, hein, de ne pas dire n'importe quoi, c'est vraiment très important. Simplement, chez ces personnes-là, il y a à un moment donné quelque chose qui se dérègle qui échappent en fait aux régulations normales.
Est-ce qu'il y a des médicaments contre les TOC déjà ? Après, on parlera peut-être des thérapies, mais d'abord les médicaments. Est-ce qu'on peut prescrire quelque chose ?
Oui, alors en fin de compte, on commencera pas par le traitement médicamenteux, mais on peut y avoir recours. Dès que ça devient sérieux, je dirais que ça devient vraiment handicapant et douloureux, il est bon d'essayer un traitement médicamenteux parce que ça peut être très efficace. Ce sont des antidépresseurs, pas n'importe lesquels, une famille bien précise, qu'on appelle des sérotoninergiques, qu'on connaît depuis maintenant une trentaine d'années dans cette indication-là, donc c'est vraiment un outil bien connu, qui est en général bien supporté, qui est assez simple à mettre en œuvre. Donc, une fois qu'on pense qu'il y a besoin d'un traitement, parce que ça implique là de prendre un traitement tous les jours pendant au moins plusieurs mois, on ne peut pas faire à la légère, plutôt avec un psychiatre, mais parfois les généralistes peuvent aussi se débrouiller avec ce traitement, même au départ, ça peut être assez déterminant.
D'accord. Jimmy ?
Et vous parlez justement que les traitements ne sont pas la première chose qu'on utilise, vous avez parlé des thérapies qui fait partie, c'est le traitement de référence, mais c'est pas n'importe quelle thérapie.
Oui, on sait maintenant que les seules, en tout cas celles dont on peut être sûr qu'elles fonctionnent chez la majorité des personnes, ce sont les thérapies comportementales et cognitives, toujours le sigle TCC. Alors comportemental, ça veut dire qu'on va modifier sa manière de réagir. Tout bêtement, on sait que dans cette maladie, il y a vraiment un enchaînement, un cercle vicieux qui est que plus on cède au besoin de vérifier, de se laver, de s'empêcher de faire quelque chose, on va avoir un soulagement sur le moment, c'est pour ça qu'on le fait, mais juste après, ça va s'aggraver, c'est-à-dire qu'on va avoir encore plus besoin de le faire. C'est une forme un peu d'addiction, on peut résumer ça comme ça, c'est pas le même trouble, mais le mécanisme est un peu le même. Plus on fait les choses de manière, je dis souvent, artificielle, c'est-à-dire que ça ne se justifie pas par la réalité, plus en fait vous créez le besoin de le refaire. Donc plus vous allez vous laver, plus vous allez avoir besoin de vous laver. Donc dans la thérapie comportementale, on va en fait exposer les personnes à ce qu'elles redoutent un petit peu, donc l'obsession qui vient, j'ai touché quelque chose de sale, ou je suis parti très vite de chez moi, j'ai peut-être pas eu le temps de fermer ma porte, ben vous allez supporter le temps nécessaire, et ça de manière progressive pour qu'on puisse s'y habituer tranquillement, le stress que ça provoque, l'obsession que ça provoque, pour qu'elle s'éteigne toute seule, parce que dans la réalité, dans ces cas-là, il n'y a pas de justification. Donc on change le comportement de rituel, on va supprimer en fait le rituel progressivement.
Donc c'est ça, en thérapie, vous commencez par ça, vous le recevez une première fois et vous y allez mollo, j'imagine. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple, par exemple quelqu'un qui a des problèmes avec tout ce qui est sale, qui ne veut rien toucher, etc. Comment vous commencez? Quel type d'exercice vous proposez au début de la thérapie?
On va surtout, comme je viens de le faire là, expliquer pourquoi on le fait, parce que sinon ça paraît contre-intuitif de dire vous allez faire ce que vous craignez de faire. Alors en fait, on va progressivement montrer d'abord, parce qu'il y a toujours un exemple qu'on peut donner soi-même, on va toucher quelque chose qui semble pas complètement désinfecté, complètement hygiénique, etc.
Vous proposez quoi?
Or souvent c'est la table qu'on a sous
devant
la main,
soi, ouais.
Voilà, des choses de l'entourage normal, on n'est jamais dans un bloc opératoire, dans la réalité. Donc on va toucher quelque chose qui va déclencher un niveau de stress qu'on va évaluer, parce que ce ne sera pas le même pour
d'abord
tous les patients.
D'abord, c'est vous qui le touchez, le docteur, c'est ça ?
Oui, alors on va le faire pour être sûr qu'au moins on va proposer des exercices, entre guillemets, qui soient réalistes. Donc ensuite, la personne elle-même va le faire. On va demander quel est son niveau d'anxiété. Si c'est une anxiété qui est tolérable, on va lui demander de la conserver comme telle et non pas de tout de suite aller essayer de se calmer en se lavant.
D'attendre.
Donc on va attendre progressivement. Alors évidemment, il y a un moment donné où c'est plus fort, on va autoriser, entre guillemets, qu'il y ait un lavage. Mais au moins, on aura tenu, ne serait-ce que, on dit toujours, quelques secondes, c'est déjà mieux que de le faire tout de suite. Et après, ça sera quelques minutes, ça sera de plus en plus long. Et ensuite, on va pouvoir augmenter le degré de difficulté en touchant des choses qui sont considéré par la personne comme encore pire, on va dire.
C'est-à-dire ?
Ce qui est toujours d'ailleurs subjectif, parce que tout le monde n'a pas les mêmes critères. Bah, par exemple, ce qui est considéré comme pire, c'est d'aller toucher le lavabo que tout le monde a éventuellement utilisé, des endroits... Alors souvent, c'est les endroits publics qui sont considérés comme
la semelle des chaussures aussi.
Alors après, effectivement, tout ce qui se rapproche du sol ou des choses dont on sait qu'elles ne sont pas complètement propres tout le temps, ça peut être le plus difficile.
Vous proposez, je crois, un exercice où vous faites toucher la semelle des chaussures et après les mettre sur le visage, les mains.
Voilà.
Ça,
voilà,
c'est vraiment à la fin du traitement, j'imagine.
Oui, alors, à la fin du traitement, ou en tout cas pour voir jusqu'où on peut aller. C'est vrai qu'on ne le fait pas tous les jours, donc ce n'est pas en soi un objectif ultime, mais c'est juste pour au moins montrer, au moins de le faire une fois avec la personne, qu'on survit à ce type de scène qui n'a strictement rien de dangereux.
Oui, ça, il n'y a aucun intérêt non plus, ni intérêt non plus.
Voilà, ouais. Il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a pas non plus de raison de se focaliser là-dessus, puisqu'on sait très bien qu'on ne va pas en mourir. Quoi.
Jimmy ?
Et une fois que le patient rentre, parce que le temps de la consultation, bah, il est court malgré tout, même si on fait le maximum, le patient doit continuer à faire ses exercices à la maison, mais à quel rythme ?
Oui, alors d'abord, les séances sont quand même plus longues qu'une consultation normale. Hein. C'est pour ça qu'il faut des thérapeutes qui aient le temps et qui soient organisés. C'est au moins, on dit, trois quarts d'heure hein, pour que justement ce phénomène de, en fait, qui s'appelle de l'habituation, on s'habitue à supporter l'obsession, se fasse, donc se produise progressivement. Et effectivement, après, le seul secret pour que ça marche, c'est de répéter théoriquement tous les jours. Il y a des exercices un peu comme des travaux pratiques à faire à la maison et on sait que les personnes qui s'améliorent bien, c'est celles qui arrivent à le faire. Mmh. Ça demande un peu de temps et un peu de volonté. Donc c'est pour ça que les consultations doivent être aussi un petit peu rapprochées pour donner un petit peu l'impulsion et suivre les choses. Et donc si on fait ce travail un petit peu quotidien, on arrive vraiment à des bons résultats.
En combien de temps d'ailleurs on peut espérer guérir de ce genre de TOC qu'on vient de décrire ?
Alors en moyenne, ça prend plusieurs mois. Moi, je dirais que quand c'est un peu sérieux, c'est quand même au moins 6 mois, mais au prix de quelque chose d'assez intensif. Mais
et vous à voyez, la maison, en suivant très bien les exercices aussi.
Voilà, hein. En ayant cette, comment on dit, cette observance un peu du traitement, c'est un peu comme avec les médicaments. Mais plusieurs mois, vous voyez, c'est pas non plus des années. Parce
non,
qu'il y a
va,
aussi
si
des vieilles
mois,
psychothérapies, on le disait, bon, on sait quand on commence, on sait pas où on va, on sait pas quand on s'arrête. Là, au moins, on a un objectif. Si ça marche pas, d'ailleurs, il faut le réévaluer au cours de route.
Jimmy ?
Et je suppose que plus un TOC est là depuis longtemps, plus il est difficile à soigner.
Oui, c'est vrai que c'est proportionnel en général à l'ancienneté et c'est pour ça qu'il vaut mieux réagir vite quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place pour pouvoir le prendre en charge rapidement.
Vous prenez en charge des enfants justement parce que vous aviez dit que parfois ça arrivait dans l'enfance. On sait d'ailleurs vers quel âge en général, c'est pas à 2 ans j'imagine un TOC
Non, c'est pas à 2 ans, mais ça peut être entre 5 et 10, hein, vraiment les premiers symptômes. Alors il faut toujours le différencier des ce qu'on appelle des rituels, par exemple du sommeil ou du développement normal de l'enfant qui a besoin de se rassurer avec des petites manies. Donc quand il y a que ça, que c'est pas très grave, que c'est pas très longtemps, que ça angoisse pas, ben, on va pas s'affoler. Par contre, si on voit que ça perturbe l'enfant, on voit qu'il est malheureux, que ça l'empêche de faire les choses comme les autres, là vraiment ça nécessite d'agir. Et ça marche aussi très bien. Enfin, ça demande des spécialistes qui aient l'habitude de le faire chez les petits. Mais c'est une bonne façon de régler le problème assez vite.
Vous donnez des médicaments aux enfants aussi, antidépresseurs, tout ça, ce que vous aviez dit au départ.
Alors, comme pour l'adulte, c'est jamais en première intention du tout. On essaye d'abord. Enfin, après, ça dépend chez l'adulte des préférences aussi. Il y a des gens qui se disent bon, la thérapie, moi, je ne vais pas y arriver. Donc, ils demandent eux-mêmes des médicaments. Donc, ça peut se discuter. Mais en général, le traitement naturel, en gros, qui est la psychothérapie, s'impose en premier. Et quand ça ne suffit pas, quand c'est trop dur, quand ça ne marche pas, le traitement médicamenteux peut vraiment être une grande aide. Chez les enfants, il y a un ou deux médicaments qui ont une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. Il faut le faire avec prudence, et ça, c'est les pédopsychiatres qui peuvent le faire, ou les pédiatres, avec une vraie vigilance.
Jimmy ?
Dans le traitement des phobies, vous nous aviez parlé de la réalité virtuelle. On peut aussi traiter des TOC de cette façon ?
Oui, alors c'est moins développé parce que c'est moins simple à mettre en place au plan technique, mais on commence à avoir des environnements visuels dans lesquels on peut proposer aux personnes. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a vraiment cette dimension tactile dans notamment le TOC de contamination. Donc on essaie de reproduire ça avec des choses qu'on essaie de toucher en virtuel dans les images, ou alors quand c'est des vérifications, ça demande aussi de programmer, je dirais, des actions. Donc c'est plus difficile au plan technologique, mais on commence à le faire de plus en plus.
Et quand vous le faites, ça a l'air de fonctionner quand même ou pas ?
Oui. On va dire que c'est souvent un premier pas, parce qu'il faut toujours l'étendre aussi dans la vie réelle, parce que le but, c'est pas juste d'être soigné par le jeu vidéo et de rester dans le jeu vidéo, c'est vraiment de le faire dans la réalité aussi.
D'accord. Alors vous dites que pour la moitié des patients, tout ce que vous avez décrit, donc les médicaments, les thérapies, surtout cognitives ou comportementales, fonctionnent bien, mais du coup, on fait quoi de l'autre moitié des patients ? Il n'y a rien d'autre à leur proposer ?
Alors les autres, ils peuvent s'améliorer quand même un peu, hein, peut-être moins, mais par exemple, si on gagne, on dit même 20 ou 30% de temps, par exemple, c'est déjà ça, même si c'est pas guéri complètement, mais parce que vous voyez, dans la vie quotidienne, ça peut être un gain important. Et puis donc, pour ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs résistants, les TOC résistants, quand ils sont très sévères, on fait des recherches depuis pas mal d'années sur d'autres méthodes de traitement, et c'est pour ce type de troubles qu'on a d'ailleurs des bons résultats avec, par exemple, la stimulation cérébrale profonde.
C'est quoi ça ?
Alors ça consiste en fait à implanter des électrodes à l'intérieur du cerveau, comme on le fait pour des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson maintenant depuis assez longtemps. Et on s'est aperçu un peu par hasard au début, et puis après parce qu'on avait des explications possibles au plan neurologique, qu'en stimulant de manière permanente, hein, donc ça demande d'implanter des électrodes et un stimulateur à l'intérieur du corps, qu'en stimulant des régions du cerveau un petit peu particulières, on arrivait à réduire de manière parfois très, très notable des TOC dans ce cas-là qui sont au départ très graves et très résistants à tous les autres traitements, puisqu'on ne le fait qu'en dernier recours.
C'est encore de la recherche. Hein.
C'est encore de la recherche, et le problème, c'est qu'il y a quand même une prise de risque qui est bien contrôlée, mais qu'on ne peut pas évidemment imposer pour n'importe quel type de trouble.
C'est de la recherche. Ça montre bien que la recherche, justement, continue dans ce domaine. Merci beaucoup, professeur Pellissolo, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus sur les TOC, pourquoi ils apparaissent parfois dès l'enfance et surtout comment les soigner. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Maux du quotidien, et aujourd'hui on s'est intéressé à la syphilis, une infection sexuellement transmissible qui est en pleine explosion en France et même dans toute l'Europe. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Maux du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'une infection sexuellement transmissible, la syphilis, qui flambe ces dernières années en France et même dans toute l'Europe. Mais en fait, c'est quoi cette infection? Et peut-on la soigner efficacement? Notre reporter Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
C'est une maladie sexuellement transmissible, il me semble.
C'est comme les gonocoques.
C'est une maladie sexuellement transmissible.
Et une maladie que, historiquement, Henri Monfa de Toulouse-Lautrec, peintre très célèbre du début du XXe siècle, avait attrapé.
Par rapport sexuel non protégé.
Tant qu'il y a des muqueuses, donc ça peut être anal, vaginal ou du coup au niveau de la bouche.
Ça fait des petites plaies au niveau de la bouche, par exemple.
Et puis après, il y a une phase de latence assez longue.
C'est très contagieux, je crois.
C'est comme une maladie, comme un cancer, comme le sida, j'imagine que ça soit pas.
Ça attaque le système nerveux.
Si on n'est pas soigné, forcément, on en meurt.
Je pense qu'on la soigne par des pilules.
C'est grave. Ça peut être grave si c'est pas soigné. Ça se soigne très facilement, je crois et je pense, avec un peu d'antibiotiques.
Je crois que c'est de la pénicilline, ouais.
Bon alors Jimmy, la syphilis c'est quoi? On pensait qu'elle avait presque disparu cette maladie et finalement c'est pas le cas. Hein.
Alors la syphilis c'est une infection sexuellement transmissible, donc on appelle IST, qui est très contagieuse. Elle est due à une bactérie appelée Treponema pallidum. Donc, ça fait très peur, mais en l'absence de traitement précoce, la syphilis évolue par phase et peut évoluer vers une maladie chronique et donc expose à des complications dont on parlera. Alors, c'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux. Elle avait disparu à la fin du XXe siècle.
Ah oui, donc on était vraiment débarrassé.
On s'en était débarrassé. Et puis, dans les années 90, elle est réapparue et on se rend compte, moi je le vois quotidiennement, qu'il y a une augmentation de personnes souffrant de syphilis du fait d'une exposition et du fait qu'on ne se protège plus comme il faut lors des rapports sexuels.
Et il y a eu beaucoup de cas, hein. Je crois qu'ils ont flambé le nombre de cas. On est passé, je peux le signaler, j'ai les chiffres sous les yeux, on est passé de 597 cas en 2007 à 1748 en 2017, donc effectivement ça augmente beaucoup. Et alors Jimmy, ça touche des populations en particulier ou est-ce qu'on peut être tous concernés finalement par la syphilis?
Ça peut toucher tout le monde à partir du moment où on prend des risques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de rapport protégé, mais en grande majorité ça touche plutôt les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Les hommes bisexuels sont aussi concernés et les hommes qui ont des rapports avec les hommes représentent quand même 80% des cas de syphilis diagnostiqués.
Ah oui, c'est quand même pas mal, effectivement. Alors comment on fait pour savoir justement qu'on a été contaminé par cette infection? Est-ce qu'il y a des symptômes qu'on peut voir, visibles?
Alors il y a d'abord une période d'incubation où il ne se passe pas grand-chose et on a une phase de syphilis primaire qui varie de 10 à 90 jours et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une ulcération syphilitique ou le chancre. Ce chancre, il disparaît spontanément sans laisser de cicatrice. C'est-à-dire que vous avez une ulcération.
Juste décrivez, ça ressemble à quoi? C'est comme une peau qui pèle, hein, c'est
exactement,
ça
comme une plaie de 5 à 15 mm qui est plutôt ovale, qui se situe au niveau entre le gland et la partie de la verge, qui est indolore et qui disparaît sans séquelles. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est guéri.
On a eu un truc et puis on n'a plus rien.
On n'a plus rien. Contrairement au gonocoque, on va pisser comme des lames de rasoir, on va avoir des symptômes, donc on va consulter. Le chlamydia, vous allez avoir un écoulement qui va vous alarmer. Et ben, le problème de la syphilis, c'est qu'une fois que ce chancre a disparu, et ben, vous pensez être guéri. Or, vous avez toujours la maladie. Et il ne faut pas oublier que le chancre, comme il est indolore, il est à différencier de l'herpès, qui lui est très douloureux, mais aussi très contagieux.
Et donc évidemment, à ce moment-là, normalement, il faut consulter, même si ça passe. Donc normalement, on se rend compte avec ces symptômes qu'on a quelque chose, et donc on consulte au plus vite, car ça se soigne, on est d'accord, il y a un traitement. Hein.
Exactement, c'est un traitement antibiotique qu'on fait en intramusculaire à base de pénicilline G, et on utilise ce qu'on appelle une forme retard, c'est-à-dire que le médicament est libéré progressivement, de manière efficace et constante, dans l'organisme. Et ensuite, on fait un suivi avec une prise de sang pour vérifier que la syphilis a vraiment disparu. Donc, on contrôle ce qu'on appelle le VDRL et le TPHA. Donc, c'est deux éléments.
Ça, c'est savant, ça.
C'est très docteur. Mais c'est ce qui permet de se rendre compte que ça décroît. Il faut un an avant d'avoir une prise de sang totalement normale
c'est
après
long.
Une première infection. Et donc, on fait une prise de sang à 10-15 jours, puis à 6 mois, puis à un an. en l'absence de nouvelles prises de risque, parce qu'on peut rattraper la syphilis dans cet intervalle.
Ah oui, il faut quand même compter un an, c'est énorme, pour vraiment guérir et que la prise de sang, elle dise nickel, il n'y a plus rien.
Et oui, il ne faut pas oublier que quand on a une syphilis positive, on peut aussi avoir d'autres infections sexuellement transmissibles. Donc en règle générale, le médecin vérifie que vous n'avez pas eu le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, le gonocoque, le chlamydia, et puis aussi dépister votre partenaire ou vos partenaires, parce que évidemment, vous ne l'avez pas attrapé sur un siège de toilette. Hein. C'est des rapports sexuels qui vous donnent ça.
Donc l'idéal, c'est de ne pas l'attraper, on est d'accord, Jimmy ? Le mieux, c'est la prévention.
Exactement,
quand même.
Exactement. Hein. La seule façon de se protéger, c'est d'avoir des rapports protégés avec un préservatif. Et si jamais vous avez eu des rapports à risque, c'est de se faire dépister, donc faire des prises de sang régulières, soit chez votre médecin, soit dans un centre de vaccination, dans un centre de dépistage gratuit, ou directement au laboratoire. Certains le proposent sans ordonnance et gratuitement.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
On se retrouve très rapidement pour votre émission Santé, Bien-être, c'est promis, mais juste avant, je vous laisse avec le groupe The Cranberries et leur titre Zombie.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, Catherine, on va essayer de répondre à la question de Marie-Hermine, 36 ans, je vous la lis. On dit souvent que nous, les filles, on simule. Mais est-ce que les hommes simulent aussi ? Bonne question Catherine, c'est vrai que la simulation, on en parle souvent. Mais c'est toujours une question dont on parle en parlant des femmes. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui simulent ?
Mais bien sûr, parce qu'on a tendance à nous laisser leurrer et les laisser nous leurrer par une évidence que sont l'érection
et l'éjaculation.
Donc on a le sentiment qu'ils ont une érection, ils sont ultra excités, ils ont des éjaculations, ils ont un plaisir ineffable. Les choses sont un petit peu différentes. D'abord, il y a des tas d'érections qui ne témoignent absolument pas d'une excitation.
Des trucs un peu mécaniques, quoi, c'est ça ?
Oui, et c'est très bien, mais voilà. Et du coup, ils l'utilisent, et pourquoi pas. Ça ne veut pas dire que l'excitation est au beau fixe. Ils peuvent le traduire comme ça, en disant « Oh là là, qu'est-ce que tu m'excites ?» Alors qu'en réalité, c'était
pas
juste
un réflexe, quoi. Voilà. Et par contre, l'éjaculation, ça ne veut pas dire forcément que l'homme a un plaisir intense, quoi.
Non, ça veut dire qu'il a un plaisir, c'est-à-dire c'est un terme, c'est une tension qui met un terme. D'ailleurs, il y a des hommes qui ont des éjaculation sur une verge molle, donc c'est voilà, il y a quelque chose qui se libère, sans pour autant être du tout un moment d'extase incroyable. Et puis d'autres en plus, alors là on parle d'éjaculation, mais il y a des hommes qui vont faire l'amour et qui vont tout d'un coup émettre les sons comme pour les femmes pour dire le plaisir qu'ils ont, et en réalité ils n'ont pas éjaculé. Et donc les femmes, ne sachant pas toujours très bien s'il y a du sperme ou si c'est leur lubrification, pensent qu'il y a eu une éjaculation qui n'a pas du tout eu lieu.
Jimmy ?
Est-ce que les hommes simulent pour les mêmes raisons que les femmes ? C'est-à-dire que pour dire « bon bah ça y est, c'est bon, on s'arrête là, on passe à autre chose ?»
Oui, parce que parfois, ils n'y arrivent pas. Donc, ils n'y arrivent pas, ça commence à être poussif, et donc ils ont envie de passer à autre chose. Et puis, il y a une connexion qui ne se fait pas, ou parfois, ils ont l'impression d'être dans une action pas suivie, pas accompagnée par l'autre, ou dans une attente de l'autre qui attend, et quelque chose qui ne vient toujours pas de leur côté. Et donc à leur tour, comme pour les femmes, c'est-à-dire que c'est l'inquiétude souvent de l'autre ou le besoin de passer à autre chose qui fait qu'on en conclut une sorte de petite action théâtrale. Voilà,
mais est-ce que c'est mieux finalement ça que de dire « je n'y arrive pas » ? Est-ce qu'on risque plutôt de vexer les femmes ? Parce qu'on a l'impression que l'éjaculation est un phénomène très simple, un peu mécanique, que quoi qu'il arrive, l'homme va éjaculer. Donc s'il n'y arrive pas, c'est que c'est la faute de la femme. Donc finalement, peut-être que simuler, c'est aussi protéger la compagne avec qui on est.
Oui, une simulation les femmes. Ouais.
Parce qu'effectivement, l'idée reçue, c'est que s'il n'y arrive pas, ce serait à cause d'elle. Donc voilà, effectivement, et ça ne l'est pas. Et comme tout le monde pense être à l'origine de ce qui se passe dans le corps de l'autre, si chacun s'occupait de son corps, mais les hommes pensent qu'ils sont à l'origine du plaisir et de l'orgasme féminin, quand les femmes se pensent à l'origine de l'érection et de l'éjaculation, et donc du plaisir masculin. Et alors qu'en réalité, on peut être bien, ça peut être doux, ça peut être merveilleux, sans pour autant qu'on arrive à aller jusqu'à ce moment de lâcher prise, parce que parfois, dans une relation, on a besoin de se garder à soi et pas de s'offrir à l'autre ou pas de s'abandonner pour X raisons psychologiques liées à la relation, mais aussi liées à l'état d'esprit dans lequel on est sur le moment. Ça peut être aussi des consommations d'alcool qui font qu'on n'arrive pas du tout à éjaculer, parce que si l'alcool fait ou éjaculer prématurément, le fait aussi parfois en éjaculer.
Ah oui, d'accord. Alors comment on peut s'en rendre compte, nous les femmes, qu'on a affaire à un homme qui simule ? Attention, j'enquête.
Alors si on disait aux hommes justement, fichez-leur la paix, pourquoi nous
on va dire pareil, alors on ne veut pas
voilà,
savoir.
On va laisser
quand même, il n'y a pas deux, trois conseils que vous pouvez nous donner pour
Non, mais laissons à chacun. Ce ne sont pas des menteurs, ce sont des arrangements avec soi pour que la relation perdure, pour que la relation se fasse sans agresser personne, sans inquiéter personne et sans être obligé de se dévoiler dans ses manquements si tel est le cas.
Comment, alors, vous ne voulez pas me dire comment on les dépiste, mais bon, imaginons, je me rends compte que mon homme simule, comment je dois réagir ?
Eh bien, simplement.
Ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. Je parlais pas, je disais je, mais façon de parler. Quoi.
Merci de la précision, Mélanie. On apprend toujours un peu plus sur votre vie. C'est très bien.
Alors, Catherine, comment on réagit si on découvre ça?
Eh bien, je pense que on a de la tendresse pour l'autre. On n'est pas dupe.
Faut pas se vexer.
Voilà, mais bien sûr que non. Encore une fois, si c'est récurrent, si on peut après se poser la question, il me semble que tu me peines à avoir du plaisir, ou il me semble que tu te contrains. Tu sais, on n'est pas obligé de faire l'amour si tu n'en as pas vraiment envie. Mais pour l'heure, laissons les choses avant d'en tirer des conclusions. Laissons s'installer et puis après. Ouvrons le débat le cas échéant, mais sinon à chacun son petit arrangement.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe Sauvage, une équipe qu'on retrouve tous les jours avec plaisir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie et bonne année. Pour bien démarrer 2020, je vous propose d'écouter l'équipe Sauvage. 2 heures d'amusement et de découverte informative en compagnie d'un invité vedette. Aujourd'hui, vedette, c'est le mot puisque c'est Mathieu Béliard, le présentateur de la matinale d'Europe 1 qui nous accompagne. Et vous savez quoi ? Il a 2-3 indiscrétions sur vous, Mélanie. Restez à l'écoute.
Beau programme, merci Mathieu. Je vous souhaite une bonne émission. Restez sur Europe 1.